Depuis un instant, la fatigue du vieux brocanteur avait disparu. Il s'était redressé, la lèvre frémissante. Son œil jaune s'emplissait d'éclairs, sa voix vibrait. Seul, poursuivit-il, les imbéciles n'attachent d'importance qu'aux grands événements. Ce sont les petits, au contraire, ceux qui semblent indifférents qu'il faut craindre. Car seuls ils décident de la vie, de même que ce n'est jamais que par un grain de sable que sont désorganisées les plus puissantes machines. C'est par une belle après-midi du mois d'octobre que, pour la première fois, Sarah Brandon apparut à Malga. C'était alors un homme d'une quarantaine d'années, appartenant à une vieille et honorable famille bourgeoise, de mœurs simples, content de son sort et un peu naïf, comme tous ceux qui ont vécu loin des intrigues. Il n'avait qu'une passion. Entassé dans les 5 pièces de son appartement, des curiosités de toutes sortes. Heureux pour 8 jours quand il avait déniché quelques faïences de prix ou un meuble rare qu'il payait bon marché. Il n'était point riche, tout son patrimoine ayant passé à enrichir sa collection, mais sa place lui valait 1000 francs, et il était assuré d'une retraite de 200 000 écus. Honnête, il l'était dans la plus magnifique acception du mot, de cette honnêteté instinctive qui ne se raisonne pas, mais qui est de l'ensemble même. Depuis 15 ans qu'il était caissier, des centaines de millions avaient passé par ses mains, sans éveiller en lui l'ombre d'une convoitise. Et c'est avec une aussi parfaite indifférence qu'il se les remuait des cailloux et des feuilles sèches qu'il maniait les pièces d'or et les billets de banque. C'était plus que de l'estime que ses directeurs avaient pour lui, c'était une amitié sincère et dévouée. Si absolue était leur confiance en lui, qu'ils eussent ri au nez de quiconque fût allé leur dire « Malga est un voleur !» Tel était l'homme qui était à sa caisse, comme tous les jours, de 10 à 4 heures, quand à son guichet se présenta un gentleman qui venait toucher le montant d'une traite tirée sur la société d'escompte par la banque centrale de Philadelphie. Ce gentleman, qui n'était autre que Sir Edgine, s'exprimait si péniblement en français que, pour plus de facilité, Malga le pria d'entrer dans son bureau. Il y entra, suivi de Sarah Brandon. Comment vous dire l'éblouissement du pauvre caissier à cette fulgurante apparition? C'est à peine s'il put balbutier les explications indispensables. Et le gentleman et la jeune fille étaient partis depuis longtemps qu'ils demeuraient encore abîmés dans une extase idiote. Une de ces foudroyantes passions qui guettent les hommes de mœurs pures au passage de la quarantaine venait de fondre sur lui. Hélas, Sarah n'avait que trop discerné le triomphe de sa beauté. Certes, Malga était bien loin d'être la dupe conjugale rêvée par ses aventuriers, mais il avait les clés d'une caisse où affluaient les millions. On pouvait toujours en tirer quelque chose, de quoi attendre. Leur plan fut vite arrêté. Dès le lendemain, Sir Elgin se représentait seul à la caisse pour demander quelques renseignements. Il revint 3 jours plus tard avec une nouvelle traite. À la fin de la semaine, il fournit à Malga l'occasion de lui rendre un léger service. Si bien que des relations s'établirent qui, au bout d'une quinzaine, autorisèrent Sir Tom à inviter le caissier à dîner chez lui, rue du Cirque. Une voix au-dedans de lui, un de ces pressentiments qu'on devrait toujours écouter, criait à Malga de refuser cette invitation. Déjà, il ne s'appartenait plus. Il alla dîner rue du Cirque et en sortit fou allié. Il lui avait semblé sentir tout le temps les yeux de Sarah Brandon arrêtés sur lui, ses yeux étranges et sublimes qui bouleversent l'être jusqu'en ses plus intimes profondeurs, qui dissolvent les plus robustes énergies, qui tremblent les sens et égarent la raison, qui éblouissent, qui enchantent, qui fascinent. La plus vulgaire politesse commandait à Malga de rendre une visite à Sir Tom et à Mrs. Brian. Cette visite fut suivie de beaucoup d'autres. Assurément, un homme moins aveuglé eût soupçonné un piège tant les misérables harcelés par la nécessité menèrent vivement leur intrigue. 6 semaines après avoir aperçu Sarah Brandon, Malga se croyait éperdument aimé d'elle. C'était absurde, c'est vrai, stupide, grotesque. N'importe, il le croyait. Il croyait à la vérité des regards de flamme dont elle l'enveloppait, à la vérité des enivrantes caresses de sa voix et de ses rougeurs divines dès qu'il entrait. C'est alors que commença le second acte de cette ignoble comédie. Mrs. Ryan, un jour, tout à coup, parut s'apercevoir de quelque chose, et fort nettement, elle pria Malga de ne plus remettre les pieds rue du Cirque, l'accusant de chercher à suborner sa nièce. « Vous voyez d'ici, n'est-ce pas, cet imbécile protestant de la pureté de ses intentions, jurant qu'il s'exprimerait le plus heureux des hommes si on daignait lui accorder la main de Sarah. » Mais Sir Tom, d'un ton hautain, lui demanda d'où lui venait tant de truculence, et s'il se croyait fait pour devenir le mari d'une héritière qui portait dans son tablier une dot de 200 000 $. Malga sortit en se tenant au mur, désespéré, résolu à se tuer. Si résolu, que rentrant chez lui, il chercha parmi ses curiosités un vieux pistolet à pierre et se mit à le charger. Ah, que ne se tua-t-il alors? Il eut emporté au tombeau ses décevantes illusions et son honneur intact. Il en était à écrire ses dernières volontés quand on lui apporta une lettre de Sarah. « Quand une fille comme moi aime, lui écrivit-elle, c'est pour la vie, et elle est à celui qu'elle aime ou elle n'est à personne. Si votre amour à vous est vrai, si les obstacles et le danger ne vous épouvantent pas plus que moi, demain soir à 10 heures, vous frapperez à la porte de la cour, j'ouvrirai. » Ivre de joie et d'espérance, Malga se rendit à ce fatal rendez-vous. Savez-vous ce qui advint ? Sarah se jeta à son tour, et avec une véhémence extraordinaire, « Je t'aime, lui dit-elle, enlève-moi, fuyons !» Ah, s'il l'eût prise au mot, s'il lui offrant le bras, il lui aurait répondu « Oui, partons !» L'intrigue était peut-être déjouée, et il eût peut-être été sauvé, car certainement, elle ne l'eût pas suivi. Mais avec cette pénétration qui tient du prodige, et qui semble un don de seconde vue, elle avait jugé le caissier, et elle se risqua, bien sûr qu'il reculerait. Et en effet, elle recula, l'idiot, il eut peur. Il se dit qu'abuser de l'amour de cette jeune fille si pure et si naïvement confiante, pour l'arracher à sa famille, pour la perdre, serait une indigne action. Et il eut sur lui-même cette étonnante puissance de la dissuader de fuir, et d'obtenir d'elle qu'elle prendrait patience, qu'elle s'en remettrait un peu au temps, pendant que lui réfléchirait aux moyens de tourner les obstacles. Bien des heures après avoir quitté Sarah Brandon, Malga n'était pas revenu de son étourdissement, et il se fut cru le jouet d'un songe sans le parfum pénétrant qui s'était attaché à ses habits, à la place où elle avait appuyé sa tête charmante. Mais quand enfin il essaya d'étudier la situation, il dut reconnaître qu'il s'était bercé d'illusions enfantines, que jamais il ne triompherait des résistances de Sir Tom et de Miss Westbayan. Il n'était pour lui qu'un moyen, un seul, de la posséder. Cette femme est perdument adorée, et c'était celui qu'elle-même avait osé proposer, un enlèvement. S'y résoudre, c'était pour Malga briser sa vie, perdre sa position, rompre violemment avec le passé pour se précipiter dans l'inconnu. Mais il songeait bien à cela en vérité à un moment où il escomptait par la pensée les plus étonnantes félicités qui puissent combler l'âme humaine. C'est alors que, résolu à fuir, un obstacle se dressa devant lui auquel il n'avait pas pensé d'abord. L'argent lui manquait. Condamnerait-il donc aux humiliations de la gêne cette riche héritière qui s'abandonnait en lui ? Cette belle jeune fille accoutumée à toutes les superfluités du luxe ? Non, ce n'était pas possible. Et cependant, c'est à peine si tout son avoir disponible s'élevait à quelques centaines de louis. Sa fortune était représentée par toutes ses curiosités entassées en son logis, qui le charmait autrefois, qui maintenant lui faisait hausser les épaules. Assurément, il en avait là pour 200 000 francs au bas mot. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on trouva se défaire d'une telle collection, et le temps pressait. Plusieurs fois, secrètement, il avait revu Sarah, et à chaque entrevue, elle lui avait paru plus triste et plus inquiète. Elle n'avait à lui apporter que des nouvelles désolantes. Mrs. Boyan prétendait la marier, Sir Tom voulait la dépayser. Et c'est avec de tels soucis que le pauvre caissier accomplissait sa tâche quotidienne, et que machinalement, du matin au soir, il recevait ou payait des millions. Et pourtant, jamais, je le jure, la pensée ne lui vint de détourner quelque chose de ces flots d'or qui coulaient entre ses mains. Il s'était résolu de vendre en bloc sa collection, à n'importe quel prix, quand un jour, quelques instants avant la fermeture des bureaux, une femme se présenta au guichet, dont un ample vêtement déguisait la taille et qui cachait son visage sous un épais voile de guipure. Cette femme souleva son voile, c'était elle. C'était Sarah Brandon. Éperdue, Malga la fit entrer. Quel malheur était survenu, capable de la décider à une telle démarche. Elle lui dit en deux mots. Informée de leur rendez-vous, Sir Tom venait de lui signifier de se tenir prête à partir le lendemain pour Philadelphie. Ainsi, l'heure décisive était venue, où il fallait opter entre l'un de ces deux partis, fuir le jour même, ou être séparé à jamais. Ah ! Jamais Sarah n'avait été aussi belle qu'en ce moment où elle semblait affolée de douleur. Jamais de sa personne exquise ne s'était dégagé un charme si puissant ni si irrésistible. Sa respiration haletait, soulevant sa poitrine d'un mouvement précipité. Et de grosses larmes, comme un chapelet de perles qui se fût égrené, roulaient le long de ses joues pâles. Plus étourdie que par un goût de massue, Malga demeurait pantelant devant elle, et l'imminence du péril lui arracha le secret de ses longues hésitations. Il se résigna à cet aveu qui lui semblait ignoble, qu'il n'avait pas d'argent. Mais elle, à ce mot, se redressa comme sous une injure, et d'un ton d'écrasante ironie, elle répéta « Pas d'argent, pas d'argent !» Et comme Malga, plus honteux de sa pauvreté que d'un crime, rougissait jusqu'à la racine des cheveux, elle lui montra du doigt l'immense coffre-fort qui regorgeait d'or et de billets des banques en disant « Qu'est-ce donc que cela ?» D'un bond, Malga se jeta devant la caisse confiée à sa probité, les bras étendus comme pour la défendre, et de l'accent d'une indicible terreur, Y pensez-vous, s'écria-t-il, et mon honneur ? Ce devait être la dernière convulsion de sa vertu expirante. Sarah le regarda bien en face et lentement. Et le mien, prononça-t-elle. Et mon honneur de jeune fille, le comptez-vous pour rien ? Est-ce que je ne vous le livre pas ? Est-ce que je vous le marchande ? Mon Dieu ! Elle disait cela d'un accent et avec des regards qui eussent triomphé d'un ange. Malgar retomba sans force sur son fauteuil. Alors elle se rapprocha, et dardant sur lui ses yeux étranges d'où s'irradiait une audace infernale. « Si tu m'aimais, cependant, soupira-t-elle, si tu m'aimais. » Et elle se penchait vers lui, vibrante de passion, et pillant un consentement sur son visage si près que leurs lèvres se touchaient presque. « Si tu m'aimais comme je t'aime, murmura-t-elle encore. » C'en était fait. Le délire avait envahi le cerveau de Malga. Il attira Sarah vers lui et dans un baiser. « Eh bien oui, fit-il, oui. » Elle se dégagea aussitôt, et d'une main avide, saisissant des liasses de billets de banque, elle se mit à les entasser dans un petit sac de cuir qu'elle portait. Et quand le sac fut plein, « Maintenant, dit-elle à Malga, nous sommes sauvés. Ce soir à 10 heures, soit à la porte de la cour avec une voiture. Demain, au jour, nous serons hors de France et libres. Nous voici liés indissolublement et... je t'aime. » Et elle sortit. Et il la laissa sortir. Le vieux brocanteur était devenu plus blanc que le plâtre du mur. Ses rares cheveux se dressaient sur son front, et de grosses gouttes de sueur inondaient son visage. Il avala d'un trait une tasse de thé, puis, avec un ricanement sinistre, il continua. « Sans doute, vous supposez qu'après le départ de Sarah, Malga revint à lui. » Point. C'était à croire que dans ce baiser dont elle avait payé son crime, la femme créature lui avait insufflé le génie du mal qui était en elle. Loin de se repentir, il s'applaudissait de ce qui venait d'arriver, et comme le lendemain précisément, le conseil de surveillance se réunissait pour vérifier les écritures, il riait en songeant à la mine de ses directeurs. Je vous l'ai dit, il était fou. C'est avec le sang-froid d'un scélérat endurci que ce malheureux calcula le montant du vol. 410 000 francs. Aussitôt, pour qu'on ne pût soupçonner la vérité, il prit ses livres et lestement, et avec une diabolique habileté, il altéra ses écritures, simulant une douzaine de faux, de façon à ce qu'on crût que le déficit provenait d'une série de détournements datant de plusieurs mois. Cette œuvre de faussaire achevée, il écrivait à ses directeurs une lettre hypocrite, où il disait qu'il avait volé sa caisse pour payer les différences de bourse et que, ne pouvant dissimuler davantage ses soustractions, il allait se suicider. Cela fait, il quitta son bureau comme d'ordinaire. La preuve qu'il agissait sous l'emprise d'une épouvantable hallucination, c'est qu'il n'avait ni remords ni appréhension. Résolu à ne pas rentrer chez lui et à ne point se charger de bagages, il dîna dans un grand restaurant, passa ensuite quelques instants dans un théâtre, et jeta à la poste sa lettre à ses directeurs de façon à ce qu'elle arrivât par la première distribution. À 10 heures, enfin, il frappa rue du Cirque. Ce fut un domestique qui lui ouvrit et qui mystérieusement lui dit « Montez, mademoiselle vous attend. » Glacé jusqu'à la moelle des os d'un pressentiment sinistre, il monta. Dans le salon, Sarah était assise sur un divan, ayant à ses côtés Maxime de Brévent. Il riait si fort qu'on les entendait de l'antichambre. Lorsque parut Malga, elle leva la tête d'un air mécontent et d'un ton brusque. « Ah, c'est vous, » fit-elle. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» Certes, un tel accueil eût dû désabuser le misérable fou, mais non, et comme il s'embrouillait dans des explications. « Parlons franc, » interrompit Sarah. « Vous venez pour m'enlever, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est tout simplement de la démence. Regardez-vous, mon cher, et dites-moi si une fille telle que moi peut être amoureuse d'un homme comme vous. Mon amant est ce charmant garçon que vous voyez là. » Quant au petit emprunt de tantôt, il ne paye pas, je vous jure, au quart de sa valeur, la comédie sublime que je vous ai jouée. Croyez d'ailleurs que j'ai pris mes précautions pour n'être en rien inquiété, quoi que vous disiez ou fassiez. Sur quoi, cher monsieur, salut, je vous cède la place. » Ah, elle y put parler longtemps sans que Malga songeât à l'interrompre. L'horrible vérité éclatant dans son cerveau, il lui semblait que le monde s'écroulait. Il comprit l'énormité du crime, il en discerna les épouvantables conséquences. Il se sentit perdu. Mille voix du fond de sa conscience s'élevèrent qui lui criaient « Tu es un voleur, tu es un faussaire, tu es déshonoré. » Mais quand il vit Sarah Brandon se lever pour quitter le salon, saisi d'un accès de rage furieuse, il se jeta sur elle en criant « Oui, je suis perdu, mais tu vas mourir, toi, Sarah !» Pauvre sot qui put croire que les misérables n'avaient pas prévu sa colère et ne se tenaient pas sur leur garde. Souple comme un de ces rôdeurs de barrières parmi lesquels jadis elle avait vécu, Sarah Brandon esquiva l'étreinte de Malga et d'un habile croquant-jambe le renversa sur un fauteuil. Et avant qu'il pût se redresser, Il était maintenu par Maxime de Rêvant et par Thomas Elgin qui, au bruit, s'était élancé de la pièce voisine. Le malheureux n'essaya pas de lutter, à quoi bon, ou donnant de lui d'ailleurs une lueur d'espoir s'allumer. Il lui semblait qu'il était impossible qu'une si monstrueuse iniquité s'accomplît, et qu'il n'aurait qu'à clamer la scélératesse des misérables pour les confondre. « Lâchez-moi, dit-il, je sors !» Mais ils ne le laissèrent pas se retirer ainsi. Ce qui se passait en lui, il le devinait. « Où voulez-vous aller ?» lui demanda froidement Sir Tom. « Nous dénoncer, prenez garde. Ce sera vous livrer sans nous compromettre. Si vous comptez vous faire une arme de la lettre où Sarah vous fixe un rendez-vous, ou de sa visite de tantôt, soyez les abusés. Ce n'est pas elle qui a écrit la lettre, et nous lui avons ménagé tantôt un irrécusable alibi. Croyez que depuis 3 mois que nous préparons cette affaire, nous n'avons rien laissé au hasard. N'oubliez pas que 20 fois, je vous ai chargé l'opération de bourse en vous priant de les faire en votre nom. Direz-vous que vous ne jouiez pas à la bourse ? » Le pauvre caissier se sentait défaillir. Lui-même, dans la crainte qu'un soupçon n'effleurât Sarah Brandon, n'avait-il pas écrit à ses directeurs qu'il avait été conduit au vol par des spéculations malheureuses ? N'avait-il pas falsifié ses livres pour le prouver ? Le croirait-on quand il dirait la vérité ? À qui persuaderait-il que la vraisemblable était le faux et que c'était l'absurde qui était le vrai ? Sir Tom, effrayant de cynisme, poursuivait. « Avez-vous oublié les lettres que vous m'écriviez pour m'emprunter de l'argent et où vous confessiez vos détournements ? Je les ai là, lisez. » Ces lettres, monsieur Chancé, c'était celles que Sarah vous a montrées. Malga fut terrifié. Ce n'était pas lui qui les avait écrites, et cependant c'était son écriture. Imité avec une si désolante perfection que, pris de vertige, doutant de sa raison et de ses sens, il comprit bien que personne ne pourrait croire à un faux. Ah, Maxime de Brévent est un artiste. Ses lettres au ministre de la Marine a dû vous les démontrer. Voyant Malga assommé, Sarah prit la parole. « Tenez, mon cher, lui dit-elle, un conseil. Acceptez 10 000 francs que je vais vous donner et filez. Il est encore temps de prendre le train dans Bruxelles. » Mais lui, se redressant, « Non, s'écria-t-il, je n'ai plus qu'à mourir. Quand mon sang retombe sur vous. » Et il s'élança dehors, poursuivi par l'erreur insultante des misérables. Épouvanté de la concevable audace de cette atroce machination, Daniel et Mademoiselle Henriette frissonnaient. Quant à Madame Berthold, elle tremblait la fièvre affaissée sur son fauteuil. Le vieux brocanteur, cependant, continuait avec une visible précipitation. Que Malga se soit ou non suicidé, on n'en a entendu plus parler, et c'est par défaut qu'il fut condamné à 10 ans de travaux forcés. Sarah fut, il est vrai, interrogée par le juge d'instruction, mais ce lui fut l'occasion d'un succès. Et tout fut dit. Et ce crime, un des plus odieux que puisse concevoir l'imagination, alla grossir la liste des forfaits impunis. Les brigands triomphaient impudemment en plein soleil. Ils possédaient 400 000 francs. Ils pouvaient se retirer des affaires. Bast, 20 000 livres de rente, c'était trop peu pour leur convoitise. Ils prirent cette fortune comme un acompte de la destinée, suffisant à peine pour leur permettre d'attendre honnêtement la proie qu'ils guettaient. Le malheur est que cette proie semblait les fuir. Vainement, Sarah, lancée dans le monde de la haute vie, se faisait une réputation européenne de beauté, d'esprit et d'excentricité. Aucun prince millionnaire ne demandait sa main. Pourtant, l'argent de Malga s'écoulait. La maison était montée sur le pied de 100 000 livres de rente. Il avait fallu faire une part à M. de Brévent. Sir Tom jouait. Sarah achetait des diamants. L'austère mais loyal avait ses vices. Bref, l'heure des expédients sonnait quand Sarah, cherchant autour d'elle, découvrit le malheureux qu'il lui fallait. Celui-là était un tout jeune homme, presque un enfant, bon, généreux, chevaleresque. Il était orphelin et arrivé de sa Bretagne avec toutes ses illusions au cœur et toute sa fortune. Il était orphelin et arrivé de la Bretagne avec toutes ses illusions au cœur et toute sa fortune. 500 000 francs en poche. Il s'appelait Charles de Carchrist. Ce fut Maxime qui lui ouvrit les portes de la caverne de la rue du Cirque. Il vit Sarah et fut ébloui. Il l'aima. Il était perdu. Ah, il ne dura pas longtemps celui-là. Au bout de 5 mois, ses 500 000 francs étaient aux mains de Sarah. Et quand il n'eut plus le sou, elle arracha de sa faiblesse 3 fausses lettres de change, lui jurant que le jour de l'échéance, elle ferait les fonds. Mais quand le jour de l'échéance, il se présenta rue du Cirque, il fut reçu comme l'avait été Malga. On lui apprit que le faux était découvert, qu'une plainte était déposée, qu'il était perdu enfin. De même qu'à Malga, on lui offrit de l'argent pour fuir. Pauvre Carchrist, on ne l'a pas manqué, lui. Fils d'une famille où l'honneur de génération en génération se transmettait comme un dépôt sacré, il n'hésita pas. Étant sorti, il se pendit à la fenêtre même de Sarah, croyant ainsi dénoncer la femme créature par qui il était devenu un faussaire. Malheureux enfant, on l'avait trompé. Il n'était pas perdu. Les faux n'étaient pas découverts. Jamais il n'avait été mis en circulation. Une minutieuse enquête ne révéla rien contre Sarah Brandon, mais n'importe. Le scandale de ce suicide diminua son prestige. Elle le comprit, et renonçant à ses rêves de grandeur, elle se jeta à se laisser épouser par un idiot effroyablement riche, M. Wilkie de Gordon Chalus, quand Sir Tom lui parla du comte de la ville Audrey. Par sa fortune, son âge, son nom, le comte réalisait l'idéal. Sarah se jeta sur lui. Comment ce vieillard fut attiré au du cirque, entouré, enlacé, enivré et finalement épousé, vous ne le savez que trop, Monsieur Chancé. Ce que vous ignorez, c'est que ce mariage mit la discorde au camp des misérables. Monsieur de Brévent ne voulait pas entendre parler, et c'est à l'espoir qu'il avait de le rompre que vous avez dû ses confidences. Lorsque vous êtes allé le consulter, il était depuis un mois brouillé avec Sarah. Elle l'avait chassé et cassé au gage, et lui en voulait si mortellement qu'il l'eût démasqué s'il eût su comment le faire sans se trahir lui-même. C'est vous qui avez opéré leur rapprochement en fournissant à Monsieur Maxime l'occasion de servir son ancienne complice. Il ne prévoyait pas alors que Sarah vous aimerait, qu'à son tour elle serait foudroyée par une de ces passions terribles qui étaient ses armes. Cette découverte le transporta de rage. Et l'amour de Sarah et la jalousie de Maxime expliquent la double intrigue dont vous avez été victime. Sarah, qui vous aimait, voulait se défaire de Mademoiselle Henriette, votre fiancée. Ivre de jalousie, Maxime avait juré votre mort. Visiblement écrasé de fatigue, le père Ravinet se laissa tomber sur un fauteuil et pendant plus de 5 minutes garda le silence. Après quoi, faisant un effort, « Maintenant, reprit-il, résumons-nous. Comment Sarah, Sir Tom et Mrs. Wyan s'y sont pris pour dépouiller et ruiner le comte de la ville Audrey? Ce qu'ils ont fait des millions soi-disant engloutis à la bourse, je le sais. Et j'ai des preuves. Donc, sans parler de leurs autres crimes, ils sont perdus. » Les seules révélations de Crochard suffiraient pour perdre M. de Brévent. Les époux Chevassin, en détournant les 4000 francs adressés à Mademoiselle Henriette, se sont livrés. Donc, nous les tenons tous, les misérables. Donc, elle est enfin venue l'heure de la justice. Mademoiselle de la ville Audry ne le laissa pas poursuivre. « Et mon père, monsieur, interrompit-elle, mon père ?»« Monsieur Chancé le sauvera, mademoiselle. » Très ému, Daniel s'était levé. « Que dois-je faire » interrogea-t-il. Rendre visite à la comtesse Sarah et paraître avoir oublié, pour elle, Mademoiselle de la ville Audrey. Un flot de sang empourpra le visage du jeune officier. « Ah, c'est un rôle indigne, balbutia-t-il, et je ne sais. » Mais Mademoiselle Henriette, lui posant la main sur l'épaule, l'arrêta et plongeant son regard dans les yeux de son fiancé, comme pour fouiller jusqu'au fond de sa conscience. « Auriez-vous donc des raisons d'hésiter » fit-elle. Il baissa la tête et dit « J'irai ».